du Mali.
Studio Damani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako. Bienvenue à cette édition matinale. À la une de cette édition, Mokhtar Belmokhtar, une nouvelle fois donné pour mort, le chef du groupe Al-Mourabitoun, dont la disparition a déjà été annoncée à plusieurs reprises, aurait été tué par une frappe aérienne en Libye. Certains spécialistes des questions sécuritaires se veulent prudents. Selon eux, cette quatrième annonce de la mort de Mokhtar Belmokhtar reste une rumeur tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Énergie et de l'Eau est attendue aujourd'hui dans la ville de Kidal. Objectif de cette mission, évaluer les besoins en eau et en électricité de la population. Reprise hier des travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger. Au menu des débats, une nouvelle fois, la mise en place du MOC et l'installation des autorités intérimaires qui divisent toujours les participants. À cette quinte à la présentation de cette édition. Mokhtar Belmokhtar aurait été tué par une frappe aérienne en Libye. Le chef du groupe Al-Mourabitoun, dont la mort a déjà été annoncée à plusieurs reprises, serait mort suite à un bombardement français, ce que confirment des journaux aux États-Unis et en France. Mohamed Touré.
Selon l'hebdomadaire français L'Express, un responsable américain affirme que le chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar aurait été tué. Selon la même source, cette information a été publiée par le Wall Street Journal. Le djihadiste d'origine algérienne, indique L'Express, a été récemment visé par une frappe aérienne française en Libye et est probablement mort. Le chef du groupe Al-Mourabitoun a mené de nombreuses attaques sanglantes au Sahel. Il avait notamment été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015, suite à une frappe américaine toujours en Libye. Selon le quotidien américain, la frappe illustre l'étendue de la coopération militaire et de renseignement entre les États-Unis et la France. Après les attentats de Paris en novembre 2015, le président Obama avait annoncé un renforcement des échanges d'informations entre les services de renseignement français et américains. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se trouvait à Washington ce lundi pour rencontrer son homologue américain, Ashton Carter.
Pour Ousmane Cornéo, spécialiste des questions sécuritaires, cette quatrième annonce de la mort de Mokhtar Belmokhtar reste une rumeur tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Ousmane Cornéo est joint au téléphone par Mohamed Touré.
Ces rumeurs, elles sont des rumeurs qui sont des suppositions. On le repère, on fait des frappes et puis on suppose que ceux qui sont sur place sont morts, sachant que principalement il doit être en Libye, aussi de la Libye. Je ne suis jamais sûr de la mort de celui-là tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles de sa mort. Ça fait la quatrième fois qu'on annonce sa mort. Tout dernièrement, on annonçait l'arrestation de d'une de ses épouses en Libye. Donc, il y a beaucoup de rumeurs autour de cet homme. Maintenant, si c'est à travers cette femme qu'on a pu avoir l'information qu'il est mort, peut-être que ça peut être plus ou moins vrai. Mais annoncer simplement sur les antennes qu'il est mort, je crois qu'on a besoin d'avoir plus de preuves que simplement l'information. Ça pourrait quand même, pour les spécialistes, permettre de remonter un peu les fils conducteurs, parce qu'on sait d'où est-ce qu'elle est venue, et par les interrogatoires, sûrement on pourra les retrouver, mais il faut reconnaître que ces gens sont tellement mobiles, ils sont aux aguets des informations, qui les permettent de se dissiper chaque fois qu'ils sont menacés.
Studio Tamani vous invite à consulter sa page Facebook et son compte Twitter pour vos réactions et commentaires à ces informations. Un véhicule des forces de sécurité maliennes est tombé dans une embuscade hier soir à Al-Mustarat, à quelques kilomètres de Gao. Le bilan serait de 2 morts et 1 blessé. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Énergie et de l'Eau devrait arriver aujourd'hui dans la ville de Kidal. L'objectif de cette mission est d'évaluer les besoins en eau et en électricité de la population. Cette visite sera la première après celle de l'ancien premier ministre Moussa Mara en mai 2014 qui avait dégénéré. Maria Maïga, on en dit plus.
L'accès à l'eau et à l'électricité est de plus en plus difficile dans la région de Kidal. La ville qui compte 35 000 habitants ne dispose de courant qu'entre 9h et 15h et encore avec une faible tension. Impossible d'avoir accès à l'électricité en dehors de ces créneaux, notamment dans la soirée et au cours de la nuit. Cette situation ne s'est pas améliorée malgré l'arrivée d'un groupe électrogène fourni par EDMSA en juillet dernier. Celui-ci fonctionne uniquement grâce au carburant fourni par l'amunissement. L'eau, quant à elle, est devenue une denrée quasi inaccessible selon la population. Les habitants affirment que cela fait des mois que certains quartiers quartiers de la ville en sont complètement privés. Une source au sein de l'EDM indique que Kidal est hors contrôle de l'entreprise. Les centrales produisant de l'énergie sont toutes fermées dans la région et tous les agences sont désormais basées à Gao. C'est dans ce contexte difficile que va se dérouler la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Alousseini Maïga. Une visite qui est une première après celle de l'ancien premier ministre Moussa Mara qui s'était rendu à Kidal en mai 2014. Sa présence avait dégénéré et avait occasionné des tensions ayant entraîné la mort de 36 soldats selon un bilan officiel.
Comme annoncé dans le titre, les travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger ont repris hier à Bamako dans une atmosphère quelque peu tendue. Les discussions portaient sur l'opérationnalisation du MOC et la mise en place des autorités intérimaires. Sur ces différents points, des blocages existeraient encore selon les participants. Outre ces difficultés, les responsables de la plateforme dénoncent leur mise à écart par le gouvernement sur les questions concernant la ville de Kidal. Abala Ag Hamzata est membre de la plateforme. Il est au micro de Sekou Gadigo.
On a parlé de la mise en place du MOC dans la région de Gao, dans la région de Kidal, et puis aussi de la mise en place des autorités intérimaires là où les élections ne se sont pas déroulées. Il fallait passer par la mise en place des autorités intérimaires. Et nous, de la plateforme, on avait quand même quelques difficultés puisque le gouvernement a tendance à travailler directement avec la CEMA sur les projets et programmes dans la région de Kidal. On a dit que dans une première fois, le gouvernement a envoyé le gouverneur de Kidal à Kidal pour ouvrir les écoles sans la participation de la plateforme. Alors que nous sommes une partie au processus qui doit être informé de tout ce qui se passe au nord. Ça n'a pas été fait, ça a été fait entre le gouvernement et la CEMA, ça veut dire qu'on nous a exclus et on dit que c'est une violation de l'accord. Et aujourd'hui aussi, on apprend que le gouverneur de Kidal doit se rendre demain à Kidal avec le ministre de l'Énergie et de l'Eau sans la plateforme. On n'a même pas été informé, on n'a même pas été consulté. Donc on dit que c'est une violation encore de l'accord.
Autre sujet, la session de la cour d'assises de Sikasso va s'ouvrir ce mercredi. Un dispositif sécurité a été mis en place par les autorités régionales pour permettre la tenue du procès de l'ex-général putschiste Amadou Aya Sanogo et ses compagnons. Sur place, les habitants attendent l'ouverture de ces assises avec une certaine impatience. Écoutons ces propos recueillis par notre correspondant Boubacar Sissé.
La cour d'assises qui s'ouvre à Sikasso est une cour qui sera marquée dans l'histoire de notre pays parce que c'est un général qui a posé un acte de coup d'État. Les faits sont établis selon en tout cas ce qu'on a appris avec la justice. La découverte de Charles de Tchako sont là, sont des faits.
La cour d'assises qui se tiendra le 30 novembre, Sikasso est un sujet. Il est citoyen malien bien avant d'être militaire. Et nous faisons confiance à la justice malienne et nous resterons toujours derrière les données de la justice malienne jusqu'aux ultimes minutes.
Pour moi, ça doit se tenir parce que nous sommes dans un pays de l'état de droit. Qui parle de l'état de droit, parle du jugement.
Une rencontre sur l'éducation et l'autonomisation des jeunes femmes s'est déroulée hier à Bamako. Une quarantaine de personnes venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays participent à cet atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'UNESCO et ONU Femmes. Hervé Yomasson, chef du bureau de l'UNESCO au Mali, au micro de Omar Ouégalo.
C'est l'autonomisation à travers l'éducation. Donc le but, c'est essayer de faciliter leur accès à l'éducation. Les filles sont fortement marginalisées. Elles sont fortement analphabètes. C'est la plus grande part des analphabètes au Mali, partout dans le monde. C'est aussi la plus grande part des jeunes qui sont exclus du système éducatif. Donc les filles sont soit déscolarisées, soit elles n'ont jamais été scolarisées. Donc on va essayer de lever les obstacles à leur scolarisation, essayer de les garder le plus longtemps dans le système éducatif et en travaillant sur une meilleure santé. Et puis également des actions d'éducation, par exemple à la santé reproductive, à l'hygiène de vie. Et le but étant qu'elles puissent donc accéder à l'éducation, mais aussi mieux participer au débat public. Et pourquoi pas aussi, c'est une dimension forte, pouvoir devenir des contributrices au développement économique au Mali.
Mohamed Salia Touré remplit pour un second mandat de 4 ans à la tête du Conseil national de la jeunesse. Il a été réélu hier à l'issue des travaux du 5e congrès du CNJ qui se sont tenus à Badiangara dans la région de Mopti.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, 150 centres d'alphabétisation dans le cercle de Kai, Kenyeba et Yelimani vont être ouverts à partir du 1er décembre prochain. En prélude au lancement, l'Académie d'enseignement de Kai a organisé hier une rencontre préparatoire avec les ONG opératrices du programme. Plus de 400 bâtiments publics et privés de la commune urbaine de Koulikoro vont être concernés par une opération de déguerpissement pour la construction de l'autoroute Bamako-Koulikoro. Les personnes concernées ont 72 heures pour quitter la voie publique. Il est 8 heures passées de 10 minutes. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. La question A. Sito Tamani.